9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Le prochain rapport du GIEC est prévu pour février, mais des extraits particulièrement catastrophistes ont été divulgués par l'AFP, suscitant un véritable emballement médiatique. Henri Weissmann, membre du GIEC, est en direct avec nous ce matin. Je recevrai ensuite Patricia Hertzmann, qui publie Call Girl du Tout Paris. C'est la première fois qu'une fille de Madame Claude raconte 35 ans après. Et l'on terminera l'émission avec l'écrivain Jean-Marie Rouard de l'Académie française. C'est lui qui a créé le comité pour la révision du procès d'Omar Radad. Or, une requête en révision vient d'être déposée en vertu d'une nouvelle analyse ADN. Peut-elle aboutir? On va voir ça avec lui. Henri Weissmann, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chercheur senior au sein du programme climat à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous êtes membre du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts du climat. Vous étiez l'un des auteurs en 2018 du rapport spécial du GIEC sur l'objectif 1,5 degré. Alors, on est habitué au rapport du GIEC maintenant. Il nous alerte sur le dérèglement climatique depuis 1990. Le prochain est prévu pour février 2022, mais des extraits ont d'ores et déjà fuité via l'AFP et on fait les gros titres des médias. Or, ce que l'on a pu lire ici et là, ce sont des extraits non pas du rapport, mais du projet de rapport. Quelle est la différence?
Oui, bonjour. Je comprends que ça puisse complètement interpeller, de se demander comment des versions intermédiaires du rapport puissent sortir et pourquoi les chercheurs qui en sont responsables puissent être réticents à en discuter. Pour comprendre ça, il faut revenir très rapidement, si vous permettez, sur la façon dont ces rapports sont construits. En fait, il ne faut pas imaginer que les auteurs responsables du rapport travaillent dans une tour d'ivoire et sont juste mandatés pour sortir un rapport sans qu'il ait été révisé. Au contraire, il y a plusieurs années de travail qui aboutissent à la production d'un rapport. Et au cours de ces plusieurs années de travail, il y a des moments très importants qui sont des moments de revue, c'est-à-dire des moments où des versions intermédiaires du rapport sont diffusées largement dans la communauté scientifique et la communauté des experts, avec l'objectif notamment de recevoir des commentaires, de recevoir des retours. Et c'est fondamental pour la rigueur scientifique et le sérieux scientifique d'avoir ce processus, parce que c'est l'occasion pour les quelques centaines de chercheurs, donc des centaines de chercheurs, ça peut paraître beaucoup, mais finalement à l'échelle de la communauté d'expertise, c'est pas tant que ça, de s'assurer qu'à la fois, il ne manque pas certaines publications qui seraient importantes à prendre en compte, qu'ils les interprètent correctement, et donc tout ce processus de révision est essentiel à la rigueur du processus.
Au fond, il y a des auteurs, il y a des relecteurs qui font des commentaires et après on prend en compte ou pas les commentaires.
Alors, quand on est auteur d'un rapport comme ça, on a obligation de considérer tous les commentaires. Juste, vous avez mentionné que moi j'ai travaillé sur le rapport sur le réchauffement global à 1,5 degré. On avait compté qu'il y avait eu 42 000 1 commentaires. Et le 1 est très important. Parce qu'en fait, on a l'obligation de répondre à chaque commentaire.
Ah oui.
Et ces réponses sont publiées par le GIEC. La réponse, ça peut être très bien de ne pas intégrer la suggestion qui nous est faite, mais la justification, c'est forcément une justification scientifique. Qu'est-ce qui va faire que telle ou telle publication est jugée suffisamment solide, suffisamment robuste, au vu de critères scientifiques pour être prise en compte? Et si elle l'est, elle doit être prise en compte, parce que la mission des auteurs du GIEC, c'est de faire une revue qui soit exhaustive de la littérature, sans biais, et donc de refléter l'ensemble de la connaissance.
Les médias ont été alertés par le ton plus catastrophiste que d'habitude des extraits qui sont sortis. Avec en filigrane, quelque chose qui normalement n'apparaît jamais dans les rapports du GIEC concernant le réchauffement climatique, c'était la disparition de l'humanité. Alors, est-ce que ça vous semble logique, vous, qu'on parle de cette manière-là, sur un ton très tragique, dans un projet de rapport ?
Alors, étant donné le rapport spécifique dont on parle, en fait, c'est pas tout à fait étonnant, au sens où c'est une des composantes du rapport d'ensemble qui sera produit. Et cette composante qui manifestement a fuité, c'est le volume qui traite plus spécifiquement des impacts du changement climatique et des stratégies éventuellement d'adaptation qu'on peut y mener. Donc ça, c'est une composante et c'est celle manifestement qui est discutée par les médias en ce moment. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un autre volume qui traite des stratégies qu'on appelle d'atténuation, donc de l'ensemble des stratégies qui sont mises en place pour essayer d'éviter le changement climatique, ou en tout cas de le limiter au maximum. Et cette composante-là, qui est peut-être un peu moins alarmiste et un peu plus porteuse d'espoir potentiellement, n'est pas du tout discutée, tout simplement parce qu'elle fait l'objet d'un autre rapport qui est développé en parallèle.
Il y a une phrase qui est revenue très souvent dans les médias, c'est « le pire est à venir ». Alors, cela dit, ça paraît logique que le pire soit à venir quand on parle de réchauffement climatique, non ?
Le pire est possible, et ça, ce n'est pas une nouveauté. On sait très bien qu'un réchauffement très, très, très large qui atteindrait 4 degrés, 3 degrés de réchauffement global par rapport à l'ère pré-industrielle serait une catastrophe pour l'humanité. Et d'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle on s'intéresse aussi sérieusement à ce problème-là depuis de très nombreuses années. Et peut-être la spécificité de ces rapports qui sont en cours de production, c'est que ce sont des rapports d'évaluation globale, donc qui traitent de l'ensemble des possibles, à la fois des stratégies, des futurs dans lesquels le réchauffement global serait le moins maîtrisé, et là, pour le coup, effectivement, avec des conséquences catastrophiques, et aussi des futurs dans lesquels le réchauffement global serait un peu mieux maîtrisé, avec moins de catastrophes. Et probablement que, alors, j'ai pas regardé les détails de ce qui était discuté dans le rapport, parce que c'est pas tellement le sujet, mais probablement qu'on va se focaliser plus naturellement sur ce futur catastrophique. Et donc, je pense qu'il y a une question aussi de se demander comment est-ce qu'on fait pour refléter la justesse et d'avoir une vision équilibrée des messages. Et c'est justement la raison pour laquelle les auteurs du GIEC ne veulent pas commenter du rapport à ce stade-là, parce qu'on en est au stade où l'essentiel de la base scientifique est en place dans le rapport. Mais maintenant, il y a tout un travail. Vous avez dit le rapport doit être publié, finalisé en tout début d'année prochaine. Donc, il y a encore beaucoup de travail à mener. Et ce travail, il consiste à discuter des messages. Qu'est-ce qu'on en tire concrètement ? Parce que le rôle du GIEC, ce n'est pas uniquement un rapport scientifique. C'est un rapport scientifique qui a visé à aider à guider la décision.
Oui, pour les gouvernements. Hein.
Pour les gouvernements et pour tous les acteurs, en fait. C'est un résumé pour les décideurs. Et donc, ça s'adresse au gouvernement, ça s'adresse aussi à tous les décideurs pertinents, les acteurs privés, les acteurs non gouvernementaux, comme on les nomme parfois. Et la production de ces messages clés, c'est un vrai travail très approfondi pour essayer de se demander de toute cette masse, de ces milliers de pages, de ces milliers de publications qui sont publiées, qu'est-ce qu'on en tire comme messages concrets qui peuvent guider la décision. Et ce travail-là, il n'est tout simplement pas abouti. Et c'est la raison, et comme fondamentalement, évidemment, personne ne va avoir en tête l'entièreté des publications et l'entièreté de la connaissance, c'est ce travail de synthèse qui reste à faire. Et c'est la raison pour laquelle c'est finalement assez contre-productif de discuter de ces messages-là, parce que la synthèse qui doit en être faite et qui doit être utile pour l'objet ultime de ce rapport qui est de contribuer à la décision, n'est pas encore fait et doit être encore fait. Donc, attendons de voir que
mais
tout ce travail soit fait.
Qui a intérêt à publier des extraits, justement ? Alors, aussi bien de la part de ceux qui l'ont fait fuiter que de ceux qui ont trouvé très judicieux de le publier, de faire l'effet, je disais, de faire l'effet d'une bombe.
Alors, je ne vais pas m'exprimer sur ce qui peut motiver certains médias à publier ces rapports-là. Et comment ils y ont eu accès, je dois avouer que c'est impossible à savoir, et finalement, peu importe. Comme je l'ai dit, le rapport circule largement. Il est disponible à des milliers de personnes dans ce cadre de ce processus de révision. Et pourquoi est-ce que quelqu'un va le faire fuiter ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas du GIEC. Parce que, comme je l'ai expliqué, c'est contradictoire avec le processus naturel de production.
On
du
dit
rapport.
Que le rapport officiel est prévu pour février, qu'il sortira donc après les réunions internationales sur le climat et la biodiversité qui vont avoir lieu d'ici là, comme le Congrès mondial de la nature à Marseille, le sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires à New York, c'est en septembre, la COP 15 sur la biodiversité en Chine en octobre, la COP 26 sur le climat à Glasgow en novembre. Est-ce que ce serait pour peser sur ces réunions-là qu'on pourrait vouloir divulguer une partie de ce projet de rapport ?
Alors c'est tout à fait naturel d'essayer de lier cette production scientifique à des moments d'actualité. Effectivement, la fin de l'année 2021 est un énorme moment pour tous les enjeux de développement durable. Il faut encore une fois revenir sur la façon dont la production de ces rapports-là a été envisagée. En fait, ils n'avaient jamais été envisagés pour contribuer à ce moment spécifique de la discussion. Pour rappel, la COP26 qui se tient cette année devait se tenir l'année dernière.
Oui.
Donc évidemment, c'était encore moins d'actualité. Ces rapports-là, ils ont été conçus pour contribuer au moment suivant de la discussion. L'accord de Paris sur le climat en 2015 crée ces moments de rendez-vous réguliers. Donc la COP26 est un moment très important, mais un moment centré sur la réflexion sur les contributions des pays. Ensuite, va venir un moment, juste après, 2022-2023, où justement on va avoir une vision beaucoup plus collective, ce qu'on appelle le bilan global, qui doit avoir lieu sur la période 2022-2023. Et le rapport du GIEC dont on est en train de parler a justement été construit pour contribuer à ce moment de discussion.
On fait une pause, Henri Weissmann, on se retrouve juste après. On va voir qu'il contient quand même un certain nombre d'informations, hein, ce projet de rapport.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes en direct ce matin avec Henri Weissmann, qui est chercheur au sein du programme Climat à l'IDRI et membre du GIEC. Ce projet de rapport, donc, dont on a vu des extraits s'étaler dans la presse cette semaine, il contient combien un certain nombre d'informations qui, elles, ne devraient pas changer dans le rapport final. On ne va pas tout recalculer d'ici trois mois. Mais est-ce que ces informations sont nouvelles ?
Alors, on ne va pas tout recalculer, mais par contre, les messages clés et la synthèse qu'on en fait est amenée à évoluer. Donc, qu'est-ce qui est le plus robuste scientifiquement ? Qu'est-ce qui est vraiment important à mettre en avant ? Ça reste à déterminer. De ce que j'ai pu voir, moi, je vois des messages qui sont déjà dans les derniers rapports du GIEC, mais qui sont le travail scientifique qui est mené par le GIEC, c'est finalement d'essayer d'étayer, de creuser un certain nombre de sujets. Mais quand on dit que le réchauffement global est en cours, qu'on est déjà proche d'atteindre les limites qu'on s'est fixées, c'est déjà dans le rapport sur un réchauffement global à 1,5 degré par exemple. Quand on dit qu'à 1,5 degré, on a déjà un certain nombre d'effets importants sur certains écosystèmes, c'est déjà dans le rapport à 1,5 degré. Quand on dit que finalement entre 1,5 degré et 2 degrés, il y a une différence fondamentale et on parle de centaines de millions de personnes qui sont affectés, c'est déjà dans le rapport 1,5 degré.
Il y aurait des centaines de millions de personnes en plus exposées aux pénuries d'eau dans les villes. Exactement. Il y aurait 80 millions de personnes en plus menacées par la famine d'ici 2050. 420 millions de plus menacées par les canicules extrêmes. Ça, c'est en 4 degrés. C'est effectivement très différent d'1,5.
C'est entre 1,5 et 2 degrés. Et donc les chiffres exacts, encore une fois, il faudra voir ce qu'en retient la synthèse. Mais en tout cas, ces directions et ces ordres de grandeur, ils sont très importants et ils pointent quelque chose qui était encore une fois déjà présent dans le rapport global à 1,5 degré publié en 2018.
Et sur la montée des eaux, on a beaucoup parlé de la montée des eaux, là, en fonction. Alors, avec un réchauffement de plus de 2 degrés, la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest pourrait être irréversible.
Les effets irréversibles, justement, c'est une des préoccupations majeures des enjeux climatiques, surtout un ensemble d'effets, la fonte des calottes glaciaires et d'autres. Encore une fois, les résultats détaillés, on ne peut pas trop les commenter à ce stade-là, parce qu'il faut voir justement, quand on regarde l'ensemble de la littérature, quels sont les chiffres et les données très précises qu'on peut donner. Donc ça, ce sera dans le rapport final. Mais le fait d'avoir des effets irréversibles, des effets de seuil, qui font que quand on dépasse un certain niveau de réchauffement global, on a des effets qui prennent une ampleur énorme, c'est au cœur finalement de toute la problématique climatique. Et c'est ça qui fait que, par exemple, entre un réchauffement global à 1,5 degré et un réchauffement global à 2 degrés, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de très marginal, que c'est finalement 0,5 degré. Il faut voir que c'est fondamentalement juste un indicateur d'une moyenne globale, mais qu'entre 1,5 et 2 degrés, on a des effets de seuil justement qui peuvent apparaître, très importants, des augmentations exponentielles de certains effets, notamment qui impactent les populations, et que c'est justement la raison fondamentale pour laquelle l'action doit être dirigée vers la limitation au maximum du réchauffement.
Henri Weissmann, est-ce qu'on peut encore atteindre l'objectif 1,5 degré, 1,5 degré ? Est-ce qu'on pourrait réduire le réchauffement à 1,5 degré ?
Alors, on sait très bien qu'atteindre cet objectif-là du réchauffement global à 1,5 degré, c'est quelque chose qui pose de très nombreux défis, et y compris qui demande une action déterminée et collective à très court terme. Donc, il y a un certain nombre.
Je rappelle que vous faites partie des 700 scientifiques qui ont signé une tribune exhortant les gouvernements à agir. Vous n'aviez pas l'air d'être convaincu qu'il y avait, de la part des politiques, une véritable détermination.
Il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait, il ne faut pas se le cacher. Depuis la signature de l'accord de Paris, même en amont, donc depuis ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'y est pas encore et qu'il faut accélérer encore donc, l'action et l'ambition. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être signalé et qui est finalement au cœur de toutes les problématiques qu'on doit se poser. Identifier la catastrophe d'un scénario où on ne ferait pas de l'action, c'est utile uniquement si ça nous sert à motiver et comprendre quel type d'action on doit mener. Quand on parle de l'action, on parle de changements fondamentaux de l'ensemble des systèmes économiques.
Justement, on se demande si la lutte contre le réchauffement est compatible avec la démocratie. Il faudra prendre des mesures impopulaires, donc coercitives.
L'analyse scientifique montre que ce n'est pas du tout le cas. Pas nécessairement, en tout cas. On peut imaginer des mesures très différentes pour atteindre les objectifs. Et beaucoup de choses, et ça c'est une des conclusions encore une fois du rapport sur le réchauffement global à 1,5 degré publié en 2018.
Dont vous étiez l'un des auteurs.
Dont j'ai été un des auteurs, et notamment un des sujets sur lesquels moi j'ai particulièrement travaillé, qui est de se poser la question, finalement, au-delà de l'objectif qu'on se donne, qui est de réduire drastiquement les émissions, et le diagnostic que pour ça, il faut transformer nos systèmes de transport, nos systèmes d'habitation, nos systèmes industriels, etc. Beaucoup de choses vont dépendre de la façon dont on le met en œuvre, et notamment des mesures qu'on prend. On peut imaginer différentes combinaisons de mesures pour résoudre ce problème-là, et on sait très bien, et en tout cas, ça c'est une des conclusions assez claires de la science, c'est qu'il ne va pas y avoir d'outils politiques uniques, magiques, qui résoudraient le problème. On parle très souvent de tarification du carbone. Ça fait partie de ce sujet-là, instaurer un prix sur le carbone. Mais on sait aussi très bien que si on s'appuie uniquement sur cet instrument-là, ça ne marchera pas, parce que ce n'est pas efficace, parce que ce n'est pas juste, et qu'il faut plutôt envisager un ensemble de mesures pour permettre d'accompagner la transition, et que c'est la condition à laquelle on pourra aligner la réduction des émissions avec, finalement, le soutien au bien-être social et économique.
Y compris au bien-être économique. On n'est pas obligé de sacrifier notre développement économique pour réduire l'augmentation de la température globale à 1,5 degré.
Mais absolument, il n'y a absolument aucune contradiction a priori entre les deux. Tout va dépendre de la façon dont on va le faire. Et finalement, l'action climatique, elle peut aussi avoir en elle-même des leviers de croissance économique. Quand on parle de faire de l'efficacité énergétique, quand on parle d'avoir des bâtiments plus efficaces, pour prendre des exemples concrets, quand on parle d'avoir des systèmes de transport qui sont finalement plus rationalisés, mieux organisés, on parle de mesures qui sont à la fois bonnes pour le changement climatique, on consomme moins d'énergie, donc on émet moins d'émissions, mais aussi qui sont bonnes pour le fonctionnement économique et pour une optimisation économique. Donc on peut très bien l'imaginer. Tout l'enjeu et toute la difficulté, c'est que si on ne l'anticipe pas, si on ne le construit pas, si on ne le planifie pas un minimum en termes de construction de quelles sont nos stratégies de transformation, alors on risque de se trouver face à des situations où effectivement on aurait à choisir entre les deux. Mais il n'y a pas de fatalité à cette situation.
Vous êtes optimiste encore aujourd'hui, Henri Weizmann ?
Je suis optimiste au sens où on voit beaucoup de choses qui ne se sont pas encore traduites par des résultats concrets, mesurables en réduction d'émissions, mais on voit un changement fondamental de très nombreux acteurs, y compris par exemple des acteurs du secteur privé. On parle beaucoup des gouvernements, à juste titre, parce qu'ils ont beaucoup de leviers en main. Mais par exemple, quand on voit les mouvements des collectivités locales, quand on voit la place qu'a l'écologie, par exemple, dans la campagne des régionales qui est en cours en France, c'est quand même notable que c'est un sujet qui monte et concrètement qui s'ancre dans les préoccupations. Quand on voit les acteurs du secteur privé qui prennent position, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Maintenant, la question, c'est de transformer l'essai.
Merci Henri Weizmann d'avoir été mon invité en direct ce matin sur Europe 1. On fait une pause et on se retrouve avec une ex-fille de Madame Claude, comme on les appelait à l'époque. C'est la première qui témoigne aujourd'hui.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour Patricia Herzmann.
Bonjour Frédéric.
Vous publiez Call Girl du Tout Paris, confession d'une fille de Madame Claude chez Nouveau Monde. On dirait que vous avez écrit ce livre pour la réhabiliter, Madame Claude.
Absolument. C'était il y a deux sujets dans le livre que je dissèque un petit peu, parce que pour l'un comme pour l'autre, j'en avais assez d'entendre Madame Claude être mal perçue, être critiquée, être abîmée, même dans ses démarches, par des gens qui, a fortiori, ne connaissaient pas, pour la plupart.
Y compris dans le dernier film sorti.
Oui, dans le dernier film, c'est absolument pas ce à quoi j'ai assisté. Claude n'était pas du tout comme elle est présentée dans le film, au niveau de la personnalité. Hein. Du physique, ça encore, c'était pas elle non plus, mais ça, on s'en fiche. Mais jamais Claude n'aurait agi comme ça, jamais.
Vous rendez compte que vous êtes la première fille de Madame Claude? Je dis ça comme elle disait elle, et comme vous dites vous, et comme vous disiez toutes à l'époque. Hein, vous étiez les filles de Claude.
Tout à fait.
Est-ce que vous rendez compte que vous êtes la première à témoigner?
Bah écoutez, j'en suis fort aise. C'est de même dommage, je regrette un petit peu que personne ne l'ait fait avant.
Alors ce qu'on lui reproche évidemment à Madame Claude, c'est d'avoir été une proxénète. Selon la loi française, elle était coupable de proxénétisme aggravé, exactement comme si elle vous avait forcé ou battu, hein, vous et les autres jeunes femmes qui travaillaient pour elle. Or, d'après ce que vous racontez, elle n'a jamais forcé personne à vous lire. C'était même le paradis. Vous n'avez jamais été aussi heureuse, ni vous n'avez jamais non plus gagné autant d'argent qu'avec elle. Vous gagnez à l'époque l'équivalent d'un cadre dirigeant dans une banque, hein, entre 50 et 80 000 francs par mois de l'époque. C'était énorme.
Oui, bien sûr. Et on en était toutes conscientes. Enfin, moi, j'ai pas rencontré énormément de la partie, parce qu'elle s'était un petit peu scindée en deux noyaux, on va dire, son écurie. Il y avait, comme je dis toujours, les chevaux de course, et puis un peu une réserve, quoi, des filles qui venaient occasionnellement ou qui n'avaient pas les mêmes disponibilités, ni les mêmes envies.
Vous étiez environ une quarantaine, 20
environ
de chaque côté.
Environ une quarantaine, hein. Voilà, à peu près. Ouais. Donc moi, j'ai dû en rencontrer une quinzaine, à peu près, pour des voyages, des dîners. C'était essentiellement les moments où on était plusieurs.
Et il faut savoir que ça n'était pas comme les maisons closes à l'époque. Il n'y avait pas de salon, il n'y avait pas de chambre.
Du tout. C'est pour ça que je m'insurge un peu contre ce film, parce que, bon, ça a peut-être été comme ça dans les débuts, dans les tout débuts, c'est-à-dire dans les années 60, parce qu'il faut bien commencer un jour par quelque chose. Mais moi, quand je suis arrivée à l'été 75, il fallait avoir un appartement. Il y avait même des filles qui n'en avaient pas, celles qui étaient justement occasionnelles, si je puis dire. Moi, j'avais un très joli studio à la Maison de la Radio. Et je recevais à peu près deux personnes l'après-midi pour des rendez-vous qui duraient entre 1 et 2 heures. Et puis, j'avais le soir un dîner, plus ou moins long, donc de là dépendait le tarif.
Au fond, Madame Claude fonctionnait comme une agence de mannequins ou comme
tout
une
fait.
Agence de cinéma. C'était
exactement.
Un peu le art
le
média de la
même.
Prostitution de luxe.
Tout à fait.
Elle vous trouvait les clients et vous demandait un pourcentage.
Voilà.
Mais elle ne décidait pas à votre place, avez-vous l'air de dire.
C'est-à-dire que quand on était le jour où on la rencontrait pour la première fois, moi j'étais un peu un cas particulier parce que ça faisait déjà 2 mois que j'étais à l'œuvre, si on peut dire. Le jour où je l'ai rencontrée, donc j'étais vraiment un cas pour plusieurs petites choses. C'est pour ça qu'on a eu des relations très particulières, elle et moi, et qu'on s'est très très vite rapprochés. D'ailleurs, j'en étais très fière parce que c'était quand même quelqu'un à l'époque, Madame Claude. Et le jour donc où on reçoit son adoubement, il y a une petite partie après un entretien individuel où elle nous demande ce qu'on est prête à donner, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on veut aller, ce qu'on ne veut absolument pas pratiquer dans tous les sens du terme, hein, que ce soit simplement au niveau d'une rencontre avec des gens de couleur. Ou... Voilà, il y avait plein de critères comme ça.
Hein. Elle vous disait d'aller jusque-là.
Oui. Voilà, ça évitait après, parce que son but premier, c'était vraiment que tout se passe bien et que tout le monde ait le sourire.
Le client comme
que tout le monde soit
comme
détendu, exactement. Que le client soit en confiance. Moi, je suis partie un jour, je vous raconte une petite histoire, en voyage à Gstaad pour 8 jours. Le type a eu un imprévu, je suis repartie le surlendemain. Quand je suis dans le taxi qui me ramène à Genève, je dis merde, il a oublié de me régler. Donc j'appelle Claude, elle me dit mais c'est pas grave mon petit lapin, c'était mon surnom. C'est pas grave, vous inquiétez pas, rentrez tranquille. Et puis, effectivement, 48 heures après mon retour à Paris, elle m'a téléphoné, elle m'a convoqué, elle m'a donné mon enveloppe. C'était ça, cette liberté, cette sécurité et ce confort que tout le monde avait, autant les garçons que les filles.
Il fallait que tout le monde y trouve son bonheur. Les clients, sinon, ils ne seraient pas revenus. Ils lui auraient fait de la mauvaise publicité.
Oui, puisque c'était essentiellement le bouche à oreille, hein, sa clientèle. Il fallait avoir la carte du club, entre guillemets, mais carte de carte, il n'y avait pas. C'était justement le relationnel qui faisait tout.
Patricia Hersman, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on a du mal à croire que cela puisse être aussi harmonieux ou que l'on puisse s'épanouir en faisant un métier comme celui-là.
Oui, écoutez, il y a des femmes qui sont mariées, qui sont sous le joug d'un bonhomme depuis 20 ans à se prendre des coups, à faire le ménage du matin au soir et le bonhomme demande la monnaie des courses. Vous voyez, excusez-moi, mais entre deux mots, je pense qu'il faut choisir le moindre. Et vraiment, chez Claude, c'était un paradis.
Vous avez été recrutée à 18 ans. C'est quand même très jeune, alors que vous n'étiez pas dans la détresse. Vous veniez d'une famille plutôt privilégiée. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Ça a été un double concours de circonstances. Je suis tombée 2 fois sur la même personne qui se trouvait être, je l'ignorais à l'époque, la secrétaire de Madame Claude. Et puis comme la deuxième fois, c'était à Saint-Tropez, on était sur la plage tous les jours, on se voyait, elle mettait son caillebotis à côté du mien. Et voilà, et elle a su me vanter les mérites de ce style de vie. Et puis j'ai dit après, je me suis fait un petit peu désirer, ça je le précise tout le temps auprès de tous mes interlocuteurs et je le dis dans le livre. Mais effectivement, au bout d'un moment, j'ai dit pourquoi pas. Quand j'ai commencé à m'insérer, entre guillemets, dans le contexte tropézien de l'époque, où la voiture la plus merdique, ça devait être une BMW dernier modèle. Bon, je me suis dit, voilà, les gens riches ne me font pas peur, finalement. Alors, pourquoi pas ? Et j'ai gagné avec elle, avec Claude, cette expérience chez elle d'un peu plus d'un an et demi, m'a permis, comme je dis toujours, de gagner du temps sur le temps, quoi. Et de pouvoir approcher et côtoyer des gens que j'aurais peut-être jamais pu rencontrer dans une vie normale.
Dont vous donnez le nom, d'ailleurs, dans votre livre.
Certains.
Pourquoi l'avez-vous fait ? Oui, beaucoup.
Sans aucune gêne, parce qu'ils sont tous décédés.
Gianni Agnelli, qui vous aviez une admiration.
Gianni, c'était l'homme de ma vie. Enfin, j'étais pas amoureuse de lui, et lui de moi, mais on était... voilà, quand il me prenait la main, qu'il me disait « mon ange, je suis bien avec toi », mais de la part d'un mec comme ça, je m'en fous du fait que c'était à l'époque le patron de chez Fiat. Déjà, quand je l'ai connu, je l'ignorais, hein, je l'ai su au bout du deuxième rendez-vous. Mais c'était un cadeau du ciel, tellement l'être humain était remarquable.
Vous nommez des réalisateurs de cinéma français très connus.
Mmh.
Vous,
oh, qui était adorable, d'ailleurs.
Vous parlez d'hommes d'affaires libanais, que l'on connaît bien aussi, de princes arabes. Ouais. Vous parlez du Shah d'Iran, qui était un client de Madame Claude et qui a été votre client.
Oui, que j'ai rencontré deux fois. Il n'y a rien à en dire, il a été charmant, mais moi je l'ai traité comme un monsieur normal. J'ai fait semblant de ne pas savoir qui c'était. Lui, je le savais, parce qu'il avait un visage, il paraissait dans Match et autres toutes les semaines. Mais et je crois que c'est ça qui lui a plu. C'est pour ça qu'il m'a redemandé, parce que il me l'a d'ailleurs laissé entendre à la fin du deuxième rendez-vous. Il m'a dit enfin quelqu'un qui est avec moi comme si j'étais un individu lambda, quoi.
Être redemandé, j'ai l'impression que pour vous c'était très important.
C'est essentiel.
Est-ce que c'était pour vous
pour
seulement
moi, c'est essentiel.
Ou pour toutes les employées de Madame Claude?
Je ne sais pas si c'était pareil, si ça avait la même importance pour toutes les filles, mais enfin pour moi c'était essentiel. C'était essentiel parce que je voulais pas être à leur disposition, si vous voulez, au niveau de ce qui se passe à l'horizontale. Je voulais surtout essayer de créer un lien à plus ou moins long terme, bien évidemment, parce qu'il y en a certains que j'ai revus même après mon mariage. Donc j'avais quitté Claude depuis des années, j'avais
une autre
vie.
Est-ce que ça n'était pas par orgueil pour être
Peut-être de l'orgueil, mais c'est sécurisant quand on a 19 ans de voir tous les grands de ce monde qui vous réclament, qui veulent voir que vous et pas une autre. Bah, je sais pas, moi, il y a plus désagréable que ça. Hein.
Madame Claude, vous le racontez bien, parce que vous arrivez au moment où elle va commencer à avoir des ennuis, ouais. C'est-à-dire après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing.
Oui,
on voit
après,
bien que quelque chose change à
c'est
ce
vrai,
moment-là.
Ça commence doucement
à changer. Ça veut dire qu'avant, sous Georges Pompidou ou sous le général de Gaulle, elle bénéficiait forcément de protection en haut lieu.
Je présume, d'ailleurs, elle-même ne l'a pas caché, hein, lors d'une ou deux interviews que j'ai pu trouver sur Internet. Bien évidemment, mais c'était plus un échange de bons procédés, si vous voulez. Il s'avérait qu'il devait y avoir dans sa clientèle des gens qui avaient des mœurs un petit peu, pour pas dire étranges, mais un petit peu à côté de la norme. Et puis c'est ces types-là, justement, qui, étant conscients de leur déviance, voilà, avaient certainement proposé un jour ou l'autre à Claude, bon ben voilà, tu gardes ça sous le coude et moyennant quoi, moi je te mets une coupole au-dessus de toi de façon à ce que tu sois le plus intouchable possible.
Vous ne leur avez jamais tiré de confidence sur l'oreiller, dites-vous.
Elle j'ai
ne
jamais
vous le
été missionnée pour ça.
Elle ne vous
cas,
le demandait pas.
Moi jamais, non.
Et ça veut dire qu'elle connaissait en revanche leur comportement sexuel.
Bah,
elle savait
évidemment
s'ils prenaient de la drogue ou pas, quels étaient leurs fantasmes.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'elle renseignait ensuite les services secrets, qu'elle les alimentait en moyen de pression?
C'est possible. Je ne dis pas que c'était certain, parce que je n'ai jamais assisté à quelque chose de visu, j'ai jamais vu ou entendu ce genre de truc de façon concrète, mais c'est pas impossible, bien évidemment. De toute façon, on tient pas 20 ans avec ce parcours et cette progression dans l'échelle sociale du métier. Et puis c'était une femme, c'était quand même un milieu d'hommes essentiellement. Elle a retiré le pain de la bouche de pas mal de sales mecs, hein. Donc ça aussi, c'est une de ces qualités qu'il faut prendre en compte encore aujourd'hui, parce qu'elle a pris, il n'y avait absolument aucun homme chez elle. Aucun homme, les seuls, c'était les clients qui devaient, qui nous devaient une rémunération X ou Y en fonction de... Mais il n'y avait absolument pas de place pour un macro, pour un proxénète, pour un... Voilà, et ce qu'elle faisait, c'était juste sa rétribution de 25 ou 30%, c'était le pourcentage normal que maintenant, comme vous le disiez précédemment, peut demander un agent artistique.
C'est plutôt un galeriste, on va dire.
Enfin, voilà, bon. Disons qu'il y a quand même... Le principe est le même. Après, c'est une question de taille du pourcentage, mais le principe est grosso modo le même.
Pourquoi l'avez-vous quitté?
Je me suis mariée. Pas avec un client, avant que vous le demandiez, pas du tout avec un client chez elle. Oh, mais il n'y avait pas de mal. Non, je me suis mariée, et d'ailleurs, c'est la grosse erreur de ma vie. Encore aujourd'hui, s'il y a une chose que j'aurais voulu changer, si on me disait « tu peux recommencer tout, qu'est-ce que tu changerais ?», le premier truc qui me viendrait en tête, c'est ce mariage. J'aurais jamais dû.
J'ai l'impression que quand on lit votre livre, c'est une autre époque, c'est un autre monde dans lequel vous avez évolué,
monde.
Dont vous avez la nostalgie d'ailleurs.
Absolument.
Vous pensez qu'on était beaucoup plus libre, qu'on pouvait fumer partout, notamment.
Entre autres, on pouvait se garer partout, on pouvait circuler. On savait qu'il y avait sur le périphérique, par exemple, pour les Parisiens, une heure de pointe le matin, une heure de pointe fin d'après-midi, et que le reste du temps, on pouvait assurer deux, trois rendez-vous en voiture. Moi, quand j'étais toute jeune, enfin, ou petite fille, mon père qui était dans la publicité, il faisait des fois 4 voire 5 rendez-vous, même en banlieue, etc., en voiture, tous les jours. Et il n'a jamais eu de problème de bouchon, de rester coincé. Maintenant, si on peut en faire un le matin, à l'après-midi, c'est quasi miraculeux, quoi.
Est-ce que vos parents savaient ce que vous faisiez ?
Alors, mes parents ont divorcé en 70. J'ai eu, après le divorce de mes parents, un grave accident de moto qui m'a rendue vraiment très, très abîmée, quoi, physiquement. Et,
mais très belle quand même, mais balafrée, d'ailleurs.
Mais balafrée, voilà.
C'était presque votre marque de fabrique.
Voilà, quelque part, oui, parce que j'avais un petit complexe d'infériorité dans le sens où... C'est pour ça que j'ai un gros défaut. Moi, j'ai jamais entretenu les relations. J'avais toujours l'impression d'aller, si je rappelais quelqu'un des années après, d'aller quémander un peu de son temps. Vous voyez, et ce qui est une bêtise en soi, mais il a fallu que j'arrive à l'âge que j'ai aujourd'hui pour en être consciente. Alors donc, j'ai vécu avec ma mère après leur divorce. J'ai eu cet accident. Donc là, à ce moment-là, pour cet accident, mes parents se sont un peu rapprochés. Mais mon père est reparti après, continuer à vivre sa vie parce qu'ils étaient un petit peu fâchés. Donc ma mère l'a su très très vite. Puisque j'ai été avec elle acheter le bouquin, le premier bouquin de Madame Claude, qui s'appelait Allô, oui. Et mon père l'a su après. Je lui ai dit un jour, je l'ai pris entre quatre yeux, je lui ai dit, voilà papa, il faut que je te dise, je t'explique comment... parce qu'il trouvait bizarre que je change de manteau de fourrure comme lui, de costume. Enfin, je voyais dans son regard, hein, il ne me l'en a pas parlé, mais je voyais dans ses yeux qu'il s'interrogeait quand même. J'avais toujours des belles voitures, enfin, bon, des choses comme ça. Ça sautait aux yeux que j'étais entourée de luxe, si vous voulez. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà. Et il m'a dit, t'es sûr de ton coup, tu crains rien, tu te mets pas en danger. Voilà, mon père, c'était la sécurité qui le... Bon, effectivement, je me doute aujourd'hui, avec le recul, que c'était peut-être pas ce dont il aurait rêvé pour moi. Mais entre, je sais pas, femme d'avocat ou femme de médecin, il sait très bien, comme je suis vraiment son prolongement parfait, je lui ressemble physiquement, intellectuellement, c'est lui qui m'a donné toutes les qualités, je peux dire, que j'ai intellectuelles. Ma vision des choses, ma finesse d'analyse, on va dire, dont on m'a parlé toute ma vie, c'est vraiment de mon père que je le tiens. Donc, il sait très bien que ça, j'aurais pas été à ma place dans un autre choix de vie.
Dernière question, Patricia Hartmann. Vous donnez dans ce livre le nom de l'assassin de Gérard Lebovici, oui, le fondateur d'Armédia, exécuté d'une balle dans la tête dans un parking de l'avenue Foch en 1984. Mmh. On n'a jamais su par qui ni pourquoi. Vous assurez qu'il s'agit du père d'une de vos amies, prostituée également, une ancienne de chez Claude, assassinée au Yémen. Il était persuadé que Lebovici y était pour quelque chose. Alors, on ne va pas raconter toute l'histoire, non, mais pourquoi n'avez-vous rien dit à la police ?
Parce que la police ne me l'a pas demandé. Puis à l'époque, je ne le savais pas. Ah non, non, non. À l'époque, je ne le savais pas. Je l'ai su bien après.
Et vous en êtes sûre aujourd'hui ?
Bah écoutez, j'ai 10 doigts à mes deux mains. J'en mettrais bien 9 dans la balance, oui.
Bah écoutez, j'invite tous ceux qui s'intéressent à cette affaire depuis très longtemps, et notamment la police, à se pencher sur votre livre. Merci d'avoir été mon invité sur Europe 1. Ça s'intitule « Call Girl du tout Paris, confession d'une fille de Madame Claude ». C'est paru chez Nouveau Monde. On se retrouve dans un instant avec un membre de l'Académie française, c'est Jean-Marie Rouard.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Jean-Marie Rouard.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie française et vous êtes l'un des principaux animateurs du comité pour la révision du procès d'Omar Radad, à qui vous avez consacré un livre en 1994, l'année de sa condamnation pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Ça s'intitulait « Omar, la construction d'un coupable » aux éditions de Fallois. Si je vous ai convié aujourd'hui, c'est que l'avocate d'Omar Radad vient de déposer une requête en révision pour obtenir un nouveau procès. La précédente, en 2002, avait été rejetée. Pourquoi celle-ci aboutirait-elle?
Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles elle a toutes les chances, cette fois-ci, d'aboutir. À la fois parce que il y a des preuves génétiques de son innocence, à la fois la preuve qu'il n'était pas dans la cave où étaient les inscriptions, puisque il y a beaucoup d'empreintes, il y a notamment 5 empreintes, mais il n'y a absolument pas la sienne. Donc, il n'était pas dans cette cave. Ensuite, il y a des empreintes qui sont... Alors, on dit que ce sont des empreintes, certains disent, que ceux qui ne veulent pas rouvrir le dossier, disent que ce sont des empreintes de pollution, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont manipulé les choses.
Oui, parce qu'il y a de nouvelles empreintes génétiques qui ont été découvertes.
Hein. Oui, oui. Mais seulement, c'est très difficile parce que de dire que c'est des empreintes de pollution, puisque c'est vraiment mêlé au sang de la victime. C'est-à-dire que l'assassin a pris le doigt de Madame Marchal pour lui faire écrire cette inscription. Invraisemblable, parce que cette inscription est d'autant plus invraisemblable que moi j'ai vu les photos du corps Mais cette femme a été massacrée. C'est-à-dire, elle a été torturée. Elle a le foie perforé à deux endroits. Elle a un traumatisme crânien. On lui a vraiment fait des plaies de torture.
Elle a un doigt sectionné aussi.
Elle doit sectionner. Donc elle ne pouvait pas faire. D'autant plus, ne pas faire cette inscription que elle était dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, c'est impossible. C'est impossible de plonger son doigt dans sa blessure et de faire des lettres entières. Et que la cave était fermée de l'extérieur. Mais il y a un autre élément qui est vraiment aussi important, c'est qu'il y a une nouvelle loi. La loi de 20 juin 2014, qui a été à l'initiative d'Alain Touré et Georges Fenech, qui est une loi très importante. C'est une révolution copernicienne du droit de révision. Puisque ce n'est plus... Avant, il fallait, pour l'innocent, il fallait un miracle judiciaire.
Oui, ce qui fait d'ailleurs arrivé très rarement qu'un procès soit révisé.
Tenez-vous bien, il y a eu 11 révisions depuis 1945. Il fallait vraiment un miracle. Et maintenant, donc, c'est la justice elle-même qui fait, par tous les moyens, eh bien, dès qu'il y a un doute, essaie d'innocenter la personne qu'elle a condamnée.
Mais c'est quand même fou que 30 ans après le meurtre, puisque ça a eu lieu l'été 91, on retrouve encore des traces ADN que l'on n'avait pas vues jusqu'à une trentaine hein, dans le tracé. Alors de la deuxième inscription, on connaît tous la première inscription, Omar m'a tué, avec la fameuse faute d'orthographe, ER à la fin, c'est sur la porte de la chaufferie. Puis il y a aussi Omar Matt, et là juste un T, elle n'aurait pas eu le temps d'écrire la suite, qui est sur la porte de la cave à vin. Ce sont ces deux inscriptions qui ont forgé la conviction des enquêteurs.
Enfin, qui ont forgé la conviction de tous ceux qui, dès le départ, savaient que cette histoire était invraisemblable, pour de multiples raisons, on peut les évoquer, mais hein, dès le départ, moi j'ai pas marché, dès le premier jour, hein, et beaucoup de gens n'ont pas marché, vous savez, j'ai créé un comité de défense, dans lequel il y avait Jean d'Ormesson, un ancien garde des Sceaux, Albin Chalandon, Maurice Dorion, enfin, il y avait énormément de gens, Edmond Charleroux, et tous ces gens-là, à l'évidence, on dit, mais c'est une erreur judiciaire. C'était vraiment voyant.
Il a été gracié partiellement par Jacques Chirac, qui a réduit sa peine. Il est sorti en 1998, au bout de 7 ans de prison. Dans quelles circonstances est-ce que Chirac, à l'époque, avait pris cette décision?
C'est pas vraiment à l'honneur de Jacques Chirac. Parce que c'est une affaire corrézienne. Il y avait ses électeurs corréziens qui lui avaient demandé la grâce de son père binational, et donc il est intervenu, mais ou bien il graciait complètement, mais surtout, ce qu'il aurait dû faire, s'il avait été un peu intéressé par ces questions de justice et de l'honneur de la France, c'était de demander, comme l'avait fait Mitterrand pour Goldman, une révision dans l'intérêt de la loi. Ça, il ne l'a pas fait. Donc, si vous voulez, cette grâce, bon, ça a été important puisqu'il a gagné 2 ans. Là. Bon. Mais je voudrais dire, il y a une autre chose qui est suspecte dès le départ, c'est la condamnation. Puisque Omar est condamné à 18 ans de réclusion avec les circonstances atténuantes. Alors, pouvez-vous me dire, au bout de 6h30 de délibéré, pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça signifie? Alors, cette femme a été torturée, mais vraiment violentée, massacrée, Et le coupable a les circonstances atténuantes.
Et 18 ans de prison, quand même.
Oui, mais avec les circonstances atténuantes. Donc, on voit très bien la négociation du président du jury d'assises, M. Djian, qui dit au juré, vous pensez qu'elle est innocente, moi je pense qu'elle est coupable, coupons la poire en deux. C'est absolument monstrueux.
À l'époque, au procès, il y a un face-à-face quand même entre Jacques Vergès, qui est le défenseur de Maradad, et Henri Leclerc, qui représentait la famille de Guylaine Marshall, donc la partie civile. C'est un combat de titans du prétoire. Et encore aujourd'hui, Henri Leclerc reste persuadé de la culpabilité de Maradad.
Oui, mais Henri Leclerc, comme d'ailleurs le juge d'instruction, ils ont instruit à charge, dès le départ. Instruit à charge et c'est évident, Henri Leclerc a été, grâce à une habileté, j'ai envie de dire diabolique, du bâtonnier du Grand Rue, beau-frère de la victime, qui a choisi. Pourquoi a-t-il choisi Maître Henri Leclerc? Parce que celui-ci était président de la Ligue des droits de l'homme. Donc, en le choisissant, c'était l'alibi, disons, antiraciste de la famille. Donc, la gauche, à ce moment-là, a complètement pris parti en faveur d'Henri Leclerc contre Omar Haddad. C'est-à-dire que, et c'est ce que je reproche moi énormément à Henri Leclerc, qui était le spécialiste des erreurs judiciaires, d'avoir avalé tout rond toute cette instruction où il y avait les erreurs se sont multipliées, où il a osé demander l'incinération du cadavre, comme le demandait la famille. C'était la pièce à conviction. Au bout de 10 jours, il y a eu incinération du cadavre. Il a fait demander, et à la demande de la famille également, la destruction des pellicules de l'appareil de photo. Il y a eu un nombre d'irrégularités.
Vous êtes sûr de tout ce que vous dites, Jean-Marie Rouard? Henri Leclerc ne va pas porter plainte en diffamation contre vous.
J'aimerais bien qu'il porte plainte, parce qu'il ne devrait pas être dans une bonne position en ce moment. Mais non, vous savez, j'ai écrit ce livre, j'ai été condamné en diffamation, à la demande de la famille, à l'époque, 100 000 euros de dommages intérêts. J'ai d'ailleurs été viré également du Figaro. Mais néanmoins, je veux dire, il y a eu un film qui reprend exactement, d'ailleurs, qui est d'après mon livre, qui reprend exactement ce que je vous dis. De Paroche Dizaine. Et je veux dire, voilà, c'est ennemi. Hein.
Il a 59 ans aujourd'hui, Omar Haddad. Tout le monde le considère innocent. Ça changerait quoi pour lui un nouveau procès?
Non, attendez, vous imaginez ce que ça change pour lui? On l'a accusé de meurtre. On l'a accusé de meurtre de quelqu'un en plus qu'il aimait, qu'il considérait comme sa mère, avec lequel il travaillait, avec laquelle son père avait travaillé. C'était une amie de la famille. C'est monstrueux. Vous imaginez ce que ça a été pour lui, pour sa femme, pour ses enfants? C'était effroyable. C'est quelque chose d'épouvantable. Il a vécu ça comme un calvaire. Vraiment un calvaire. Donc, il attend justement qu'on lui rende ce droit à l'innocence. Voilà. Ça me paraît vraiment humain.
Merci Jean-Marie Rouard d'être venu sur Europe 1 pour défendre une fois encore la cause d'Omar Haddad. J'espère pour vous que cette fois-ci, ça aboutira.
J'espère pour lui. Merci. Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. On se retrouve samedi prochain. Le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos animé par Mickaël Darmon. C'est dans un instant. Votre invité du jour, c'est Bernard-Henri Lévy.
Philosophe, essayiste, réalisateur, acteur engagé, il n'hésite pas à mettre en scène ses combats pour mettre en lumière les guerres oubliées et faire connaître les hommes sans nom, le titre de son dernier livre.
Bonne émission.